Pas pire, pas tout.
95.5 FM.
J'ai un fils enragé. Qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples et finances où il ne peut entrer, et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays.
Et ce chant de Félix Leclerc retentit toujours, bien des décennies plus tard, les gens en colère, mais aussi qui vivent des choses difficiles. Donc, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire, maintenant, de Logement un droit. Et dans notre première partie, on a justement quelqu'un qui lutte pour ça. Bon, le logement, qui s'appelle Mario Mercier. Salut, Mario.
Salut, Alain.
Alors, évidemment, tu n'as pas besoin de présentation beaucoup, mais tu es devenu une vedette des médias depuis quelques années, toi, là.
Oui, c'est que l'Association des locataires étant très dans la rue, organise beaucoup de choses. Ça fait qu'on prend position sur beaucoup d'enjeux. Ça fait que j'ai l'honneur d'être porte-parole de l'Association des locataires et de faire des petits babayes aux gens et de leur parler des fois dans leur salon.
Exactement. Je l'avais fait quelques années, pendant quelques années avant toi, puis c'est évidemment, c'est surtout autour du 1er juillet que là, on est, même en d'autres temps, mais surtout au 1er juillet. Là, sur le 1er juillet, c'est une job à temps plein. Là.
Oui, et puis on voit des problèmes très concrets. C'est très dur, des fois, émotivement, parce qu'on voit vraiment de la misère. Et même si on nous dit que c'est disparu, que cette crise-là n'existe plus...
Sherbrooke, ça vaut mieux qu'à Drummondville, ça vaut mieux qu'à Victoriaville. C'est une ville idéale, finalement. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont déménager à Sherbrooke. On va avoir d'ailleurs, ils ont parlé qu'il y aura une augmentation de la population à Sherbrooke. Ça doit être ça. Il y a du logement ici.
Ah oui, oui. si on se fierait à certains porte-parole, certains élus avant les élections. Après, pendant les élections, ils deviennent plus sensibles. L'écoute devient plus importante et ils n'ont jamais caché la réalité.
D'ailleurs, tout à l'heure, après l'entrevue, j'ai retrouvé la chanson « Attends-moi, Tigo » où on parle d'élections, là, justement, il y a un couplet censuré. Dans les nombreux dossiers, puis justement aujourd'hui, et puis depuis plusieurs mois que l'association porte, et puis d'ailleurs tu as suivi ce dossier-là, et encore aujourd'hui, c'est le faubourg Ménassène. Peut-être pour rappeler aux gens, avant de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, puis ce qui s'est passé, de rappeler justement cette histoire, moi, que j'appelle épouvantable.
On se reporte en 2022. Donc, maintenant, un petit peu plus de 3 ans. Et il y a eu tout un processus où des administrateurs sont devenus les seuls membres de la corporation qui s'appelait la Cité des retraités, qu'on appelle communément, Ménassène, et que les gens connaissent sur le nom de Ménassène.
Exactement, depuis des années, des années.
L'organisme avait été créé en 1980. Il y avait eu des subventions, une mobilisation de l'ensemble de la ville de Sherbrooke, une subvention de la Société canadienne d'hypothèques et de logements.
Donc, l'argent public qui était investi, là.
Et de l'argent public, de l'argent des gens de Sherbrooke, la communauté de Sherbrooke, il y a eu des dons, il y a eu du bénévolat. Puis finalement, tout d'un coup, quand que la subvention, le prêt pour l'hypothèque est venu à jour, dans leur tête, les administrateurs, ils sont mis à penser comment s'approprier les sous de la corporation.
OK.
Ils ont passé faire le crime parfait.
Oui.
D'ailleurs, on a entendu ça dans la bouche de la présidente, parce que on a été hier, mardi, à la cour d'appel. C'est que eux pensaient qu'en ne permettant pas aux membres d'être membres, aux locataires d'être membres, en n'ayant plus de membres autres, il restait qu'un seul locataire autre que le conseil d'administration, que en dissolvant l'organisme, en faisant des magouilles, parce que c'est pas la dissolution de l'organisme, c'était pas sur son nom original. Ils ont changé le nom de la corporation de Cité des retraités à Orientation éphémère.
Oh, oui.
Ah oui, ils sont des comiques dans leur genre, là, quand même, appeler un organisme dont on veut s'approprier les sommes, puis qu'on veut dissoudre à quelques jours, puis l'appeler Orientation éphémère. Hey,
ça, c'est de l'imagination, hein?
C'est vraiment des comiques.
Et puis, évidemment,
des grands comiques.
Puis la démocratie, parce que une forme coopérative ou n'importe quoi, notamment, c'est les membres qui décident.
Oui, puis il y a un OSBL, entre autres, qui ne tente plus d'avoir de membres, qui refuse d'avoir des membres. C'est pas un organisme normal, là.
Non.
Puis, ils ont dissous l'organisme en se disant que une analyse un peu formelle. C'est si on n'a plus de membres, personne ne pourra se plaindre de tout ce qui se passe. Et parce que c'est une vision, là. Je vous dis, là, c'est pas la mienne.
Non.
C'est une vision très particulière qui pense que, comme la loi sur la troisième partie fait partie de la loi sur les compagnies, partie 3, qui est des organismes sans but lucratif, à toutes les fois qu'on voit sociétaires, on doit voir membres. Et il n'y a plus de membres, il n'y a plus personne de se plaindre, il n'y a plus personne qui peut prendre le nom puis défendre la corporation contre les agissements, qui frôle le banditisme, là, qui frôle la fraude tout au moins.
C'est ça, antidémocratique, si on s'entend, là aussi.
Ouais. Hein? Et c'est quand même une saga qui a commencé.
Depuis 2022.
Il y a eu à Sherbrooke, il y a eu des rencontres, il y a eu des audiences, et il y a eu une décision, pour reconstituer la corporation.
Exactement.
Et permettre de cette façon-là ce qu'on appelle l'action oblique, c'est que des locataires puissent demander des comptes aux anciens administrateurs et demander à la Cour d'annuler des actes qu'ils ont posés. Donc, l'acte de vente qui s'est fait en catimini.
Et cette vente-là, elle est propriétaire, locataire privé, là.
Oui.
Très privé, là.
C'est un groupe de promoteurs immobiliers autour de M. Busse, qui est très connu dans la région, beaucoup.
Il est resté dans la porte, déjà, sur le conseil. Je l'avais laissé dans le cadre de porte.
Ah, oui, c'est très connu. Hein, c'est le genre où je voudrais pas m'avancer trop, là, mais il y a la même conception que beaucoup de propriétaires. Les droits au logement, il est pas là pour ça. Il est là pour faire de l'argent.
Exactement.
Il est là pour faire de l'argent, pour forcer même la loi, pour ne pas la respecter à l'occasion et d'intimider les gens pour arriver à ses fins.
Et c'est des gens comme ça qui devenaient propriétaires de logements avec des personnes on va le dire âgé, on est dans la gang normalement,
oui.
Pas marié ou tout.
Oui.
Mais tu sais, je me dis...
On est des jeunes par rapport à eux, même si on est relativement âgé.
Mais des personnes vulnérables quand même. Oui. Là.
Et d'une certaine façon, l'intimidation puis les pratiques du milieu privé chez des gens plus vulnérables, ça finit par être de la violence aux personnes âgées. Si on te fait rencontrer le propriétaire pour puis si on te dit si tu as besoin de changer le chauffe-eau, c'est toi qui vas le payer. Puis des histoires comme ceux-là, ben c'est très difficile à vivre. Tu n'as plus ta quiétude. Là. Mm-hmm. Tu rentres dans l'univers des requins.
Et c'est ça.
Malheureusement, beaucoup de locataires vivent, là, mais à un âge très avancé.
Et surtout qu'eux autres, ce qui est le fun, par contre. Et on a vu la même chose avec les résidents de la résidence Mont-Carmel à Montréal. Ils ont dit, attends un petit peu, on est peut-être vieux, mais on est debout.
C'est ça, c'est que j'ai regardé à TVA, entre autres, ils présentaient les premières assemblées où il y avait 80 personnes à deux réunions de suite avec des gens qui voulaient savoir ce qui était le recours. L'association des locataires...
Excellent travail qui a été fait, là.
...a eu l'honneur, le très grand honneur de commencer cette bataille-là, de commencer à réunir les gens, à donner une voix. On a fait le seul porte-à-porte, parce qu'après, c'est les gens de Menassène qui s'en ont occupés. Ils sont auto-organisés. On était à la bougie d'allumage avec Maître Fortier qui était là au tout début.
Et qui, pro bono, faut le rappeler.
Madame Dauphinet qui sortit publiquement la chose qui...
C'est dans son district d'ailleurs aussi, là.
Oui, puis elle était aux premières lignes de cette bataille. Qui s'est continué et comme le juge de la Cour supérieure a permis de reconstituer l'organisme orientation éphémère. Peut-être que ça va être éphémère aussi par après, mais on verra les résultats. Mais nos amis acheteurs, ça veut dire le groupe de M. Busque, et les amis
administrateurs
nouveaux riches, nouveaux millionnaires.
Ben oui, qui ont vendu ça pour un...
qui se sont séparés près 20 millions, 4 millions chaque. Là.
C'est triste.
Le sens du mot bénévolat prend un sens que je connaissais pas.
Oui, moi, je vais dire ça, c'est Félix, je vais devenir bénévole comme ça. Voilà.
Et ils en ont appelé en cours d'appel.
Ah, mon Dieu.
Nous, à Sherbrooke, on était 4 personnes à monter à Montréal.
Et ça s'est fait là, cette semaine, là.
Mardi dernier.
Et plusieurs fois, quand vous êtes allé en cours, moi, je suis allé une fois, là, je me suis endormi pendant... Parce que t'es habitué au thème juridique, à un moment donné, là. C'est enrageant de voir, surtout quand c'est l'avocat, là, des administrateurs qui...
Qui dit que c'était leur fonds de retraite. Leur fonds de retraite, là.
Ben oui, sont, quand même, mais c'est un bon petit fonds.
On est parti de Sherbrooke très tôt. On voyait la pleine lune sur la rue. C'était de toute beauté. On a dit, par une journée qui commence avec une nuit aussi illuminée, et la lumière va sortir. On a monté à Montréal. On a été rejoint par la coordonnatrice du Frappu, Catherine. On a été rejoint par les madames du Mont-Carmel, qui étaient solidaires. Et ils sont très humbles. Ils disent c'était pas loin de où on reste.
Mais je pense que la cause, c'est vraiment ce qu'on appelle d'être solidaire.
Puis je vous dis, là... ces madames-là, ils sont, moi, je dirai jamais que je suis une personne âgée. Ils ont tout autour de 90 ans.
OK, ben on est jeune encore.
Oui, il y avait une madame Thibault, il y avait une ancienne religieuse qui avait été dans les luttes sociales au Honduras. C'était des madames d'une respectabilité incroyable et d'un dynamisme. Là, ils ont 90 ans, mais quand ils donnent la main, là, ils donnent la main.
Bon.
Il y a encore du tonus, il y a encore d'une volonté. C'est de très, très belles madames. Eux autres, nous, on leur a dit qu'on était très heureux de les voir.
Effectivement.
Ils ont parlé de leur lutte au tribunal administratif du logement.
Oui.
Qu'on connaît bien, nous aussi.
Alors, mardi, donc, évidemment, c'était une des nombreuses fois, parce qu'évidemment, en cours, ils donnent raison. Les autres qui ont tort, ils disent on va avoir raison. Fait que, donc, c'était une saga là, juridique qui continuait mardi. Là.
Oui. Va dire aussi qu'il y avait une mobilisation assez incroyable. À Sherbrooke, sur un écran, il écoutait en direct la retransmission de ce qui se passait à la cour d'appel dans une salle organisée rapidement.
C'est bien.
Une mobilisation gigantesque. Ça n'a pas été... Moi, j'aurais pas aimé être l'avocat de leur avocat. D'ailleurs, il s'est
L'avocat des pauvres administrateurs qui ont fait 4 millions.
Ils se sont fait poser des questions fondamentales parce qu'ils disaient que Mme Proulx, comme locataire, n'avait pas l'intérêt pour pouvoir, pour pouvoir intenter un recours au nom des gens. Ils se sont fait dire, fait demander par la présidente... une question que je trouve fondamentale. Si on se fie à vos dires, il n'y avait personne qui pouvait intenter saisir la cour pour ce qui s'est passé. Elle a dit, ce serait un crime parfait, s'il faut. la décision va être rendue probablement demain.
OK.
Ça fait que cette lutte va continuer. Et ce matin, il y avait une conférence de presse de Sauvons-Ménassène pour une campagne de financement.
Qui a commencé d'ailleurs aussi il y a quelque temps. Et ça aussi, c'est une autre belle mobilisation là, de cette campagne.
Ils ont ramassé 138 000 $.
Oh, bravo!
Et ils sont donnés un matin deux porte-paroles, un national avec M. Gérard Larose.
Gérard Larose, hein.
Qui est ancien président de la CSN, impliqué, citoyen.
Très engagé.
Habitant de l'Estrie.
Oui.
Et aussi Mme Hélène Dauphinet, qui est une porte-voix dans ce dossier-là.
C'est ça
qui est un objectif de 100 000 $. Je veux dire qu'il y a déjà 20 000 $ qui a été annoncé. Fait qu'on demande aux gens. Dans la bataille de David contre Goliath.
Oui, effectivement.
La bataille contre des nouveaux millionnaires.
Ben oui.
Et les chanceux qui pensent avoir gagné à la loterie en fraudant.
Oui.
Et ce que je pourrais dire, c'est que cette bataille-là, ce que je vois, c'est que c'est une lutte pour la socialisation. Nous, on le voit.
Oui.
C'est une lutte importante pour que un style d'organisation démocratique et sociale du logement, pour permettre aux gens d'avoir des logements à la fois abordables financièrement, gérés de façon démocratique, dans des milieux qui sont là pour aider les locataires. La mission de Ménassène, c'était de fournir du logement abordable.
C'est ça.
aux locataires de la région, puis donner un milieu de vie agréable.
Et puis surtout, c'est un bel endroit, puis c'est un bel endroit, pas loin de la rivière, avec des jardins, tu sais, c'est vraiment là, un milieu de vie là, agréable là, pour les personnes. Puis, fait que, donc, ça veut dire que la lutte continue, donc on peut inviter les gens, ils ont une page, je pense, Internet ou quelque chose.
Oui, il y a... Moi, je connais, si tu connais mes connaissances en informatique, bon, je peux me promener un peu, faire quelques petites affaires, mais on peut faire des dons en ligne, on a les adresses, et il va y avoir un petit vidéo qui a été justement, qui fait le point des dernières décisions qui a été rendues par la Cour supérieure, qui était en appel. Le petit vidéo montre où en est rendu la lutte, puis appelle à financer Manassène, financer la bataille.
C'est ça. C'est une bataille, puis une bataille justement comme tu dis là.
Ça a besoin d'argent.
Ben, puis dans la Bible, la ville avait gagné.
Ouais.
Lancer une pierre entre les yeux de entre les yeux de du
David géant. Était peut-être moins grand, moins bien armé, mais il était tout là.
C'est ça.
Fait que je pense que Goliath est en danger.
Et
ce que j'ai senti un peu partout, c'est que le bassin des appuis à Manassène grandit.
Effectivement.
Grandit à Sherbrooke et grandit au niveau du Québec. Mm-hmm. Les gens le voient comme une lutte importante qui ne peut pas être perdue, qui ne doit pas être perdue.
Effectivement.
Et à un moment donné, quand on veut que quelqu'un gagne, hein, puis il faut lui donner un appui solidaire.
Exactement. Toujours dans ces luttes, en complétant cette entrevue, on parle bien sûr de l'association locataire active pendant la période électorale. Puis Mondou, hein, tout à l'heure, on va en parler des candidats dans la deuxième demi-heure. Mondou, il va-tu s'en construire du logement, Mario? Hein? Ça va être-tu beau? Hein? C'est donc beau. Hein? C'est donc...
Oui,
c'est plein d'espoir.
je te sens un petit peu cynique dans la campagne électorale, mais je voudrais dire quand même que le fait qu'il y ait une vraie élection avec beaucoup de candidats dans tous les endroits,
oui, ça, c'est vrai.
Ça crée un vrai débat électoral. Ça nous permet de parler de programme.
Oui.
Et des fois, là, la vision qu'ils ont, on va montrer une belle face de quelqu'un qui est bien mis, bien habillé et tout. Sa face seulement devrait nous permettre de voter pour lui. À un moment donné, il faut discuter de logement.
C'est ça.
Il faut discuter de... d'aqueduc, il faut discuter d'environnement, d'écologie, d'inondation, de sécurité. Puis la ville, quand même, c'est un gouvernement de proximité.
Excellent.
Et nous, à l'Association des locataires, on a dit, c'est le moment.
Exactement.
Les gens ont malheureusement perdu un service très important dans la région, dans le sens que il reste qu'Isabelle à temps plein, qui est obligée, entre autres, de faire du chômage. Notre subvention nous permet pas de faire un travail de fond, d'accompagnement aux gens. Malheureusement, maintenant un peu plus d'un an, on a arrêté le
service individuel. Là.
Le service individuel. On tentait de patcher les trous en faisant du travail dans les groupes qui nous invitaient.
C'était une réussite quand même, là.
Mais ce travail qu'on continue de trouver important, il faut qu'il y ait du financement. Et à l'heure actuelle, tous les groupes à lesquels on a rencontré, sauf exception, il y avait quelques personnes qui ne sont pas prononcées là, dans des candidatures, ont écouté nos revendications. Et tous les groupes organisés, dont les quatre personnes à la mairie, nous ont dit que le 50 000, c'était au moins un minimum et qu'on devait financer l'association des locataires. Parfait. Je sais que dans certains cas, c'est un revirement à 180 degrés.
Exactement, si on peut penser à quelqu'un, entre autres, oui.
Oui, ça fait que ça nous montre que ça vient pas, je pense pas que c'est un cadeau que nous feraient les candidats qui se présentent à la mairie. C'est une reconnaissance qui vient du milieu. Entre autres, même les gens, Mme Berthold, je prenais son exemple parce que je la connais.
Depuis des années qu'elle est là, elle connaît aussi la réalité.
Je l'ai rencontrée, elle nous avait dit, ça nous a été présenté d'une façon particulière.
Oui, oui.
On ne rentrera pas dans les petits détails.
Mais il reste que c'est ça, là.
Puis, suite à la marée d'appels, parce que quand on arrêtait le service, on disait aux gens de contacter leurs conseillers, qu'elle regrettait son vote négatif.
Puis d'autres aussi l'avaient dit, aussi, on l'a entendu d'autres aussi.
C'est, ça devrait toujours, on trouve malheureux certains gestes, on trouve heureux que des gens puissent changer d'avis.
Oui, hein? c'est fou que je change pas d'idée. Oui. Hein?
Puis, quand on parle de collaboration, mais c'est aussi une reconnaissance des gens de Sherbrooke du travail qu'on a fait sur le terrain, qu'on continue de faire sur le terrain. On a parlé tantôt de Ménassène, mais on a intervenu sur la question de l'itinérance. On a rencontré des gens qui étaient en lutte dans des blocs appartements. Ouais. On a rencontré des gens qui s'occupaient d'immigration. On a rencontré plusieurs groupes. On a outillé des groupes. J'en regardais encore. J'ai fait une tournée pour notre activité du 23 octobre. Et à la CEF, ils me demandaient si on pouvait avoir plus qu'une augmentation de loyer par année.
Bon.
Et on veut que ce travail qu'on continue de faire de façon un petit peu trop faible à notre goût, on puisse le prendre à bras le corps, qu'on puisse défendre les gens, les accompagner, s'assurer que leur droit s'est défendu au tribunal administratif, puis qu'on les mette pas à la porte. J'ai fait une tournée, justement, j'ai rencontré le CIUS, qui est le comité de quartier, puis juste en face, même ici, il y a un moratoire sur les rénovictions.
Ouais.
Il y a un propriétaire qui mettait tous ses locataires à la porte.
Ah, ben, voyons donc.
Il
l'avait pas lu, la loi.
Oui, c'est ça. C'est que la loi existe,
On va prendre une petite pause. On va regarder un petit 5 minutes au retour pour voir les activités qui s'en viennent. Puis justement, une chanson de Félix Leclerc qui parle il y a un couplet qui parle d'élection, justement. Puis tu viens souvent d'avoir entendu ça, cette chanson-là, « Tambour de tiga ». Puis c'est dans les couplets, il appelait ça « Censuré ». On va donc écouter Félix Leclerc à la pause, puis on regarde quelques minutes pour revenir. Puis tout à l'heure, je vais parler justement. Il y a beaucoup de monde à Quatica où tu habites. Le maire, il l'adore tellement qu'ils l'ont réuni.
Oui, oui.
Puis à Magog aussi, à Windsor, Mégantic.
Pour parler peut-être de Quatica, il faut dire que le maire, il a été dans les batailles importantes.
Oui.
Entre autres, pour empêcher la fermeture de l'hôpital.
Effectivement.
Et il a mobilisé ces gens.
Alors, effectivement. Fait que, petite chanson, et puis on revient, bien sûr, la deuxième demi-heure de l'émission de Logement 3, bien sûr, maintenant, tous les jeudis, et c'est en rediffusion dès demain sur le site Internet de CFLX.
La voisine arrive de nous autres, pension d'avoir 12 enfants, pour changer son fusil d'épaule, depuis qu'elle en a autant. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Il est joli, il est riche, il est poli. Mais une chose l'ennuie, c'est son valet, quel génie. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
poison est au bas de l'échelle et le talon part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Parce que j'avais pas de manteau, j'ai pris la peau de mon chien. Tu vois qu'il n'y a pas plus salaud que moi qui chante ce refrain. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle. Vous qu'aux enfers on rejette, on s'en verra peut-être au ciel. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Couplet censuré. La veille des élections, il t'appelait son fiston. Le lendemain, comme de raison, il avait oublié ton nom. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. Quand monsieur le curé raconte que la paroisse est pleine d'impies, c'est pas à cause des péchés, c'est que les dîmes sont pas payées. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Il est midi
30 minutes.
Ici Marie-Claude Bibeau. Sherbrooke doit grandir sans compromettre son avenir. Je veux protéger l'environnement, planifier notre développement de façon responsable et bâtir une économie locale forte qui profite à toute la population. En travaillant ensemble, on peut créer une ville durable où la qualité de vie et la prospérité vont ensemble. Une ville qui prend soin de son environnement, de ses familles et de ses entreprises. Le 2 novembre, votez Marie-Claude Bibeau, candidate indépendante à la mairie de Sherbrooke.
Approuvée par Josiane Turgeon, agente officielle.
Le jeudi 23 octobre, venez célébrer et soutenir la culture à Brompton. Joignez-vous à nous pour l'événement Bière et saucisse au bénéfice de la Maison des arts et de la culture de Brompton et de chez Praxed. Sous la présidence d'honneur d'Olivier Jean, propriétaire du Gars du Lac, profitez d'un souper 5 services signé Festin Royal, les savoureuses saucisses du IGA Marché Forg finement agencées aux bières du Boc et Bière. Musique, peinture en direct et tirage tout au long de la soirée. Pour que la culture continue de faire battre le cœur de notre communauté, achetez votre billet avant le 13 octobre au maculturebrompton.com/nous-soutenir.
En toute saison, Pennette poursuit son aventure avec des gens qui font l'événement chez nous. Les samedis et les mardis sur l'heure du midi, des pennettes qui font du bien, qui rafraîchissent, émeuvent, témoignent, enrichissent et nourrissent l'âme. Animés par une épicurienne, des conversations qui parlent de tout, de rien et de tout, et de rien du tout. C'est votre pêle-mêle hebdomadaire, sans queue ni tête et sans secret aucun.
Papyrus Sportif, CFLX 95.5 FM.
T'es comme un Mario, le sport, c'est pas ton fort. malgré que...
Défendre les locataires, c'est un sport extrême.
Exactement. Et on a bien ri à cette chanson de Félix Leclerc. Hein. Alors, bonjour Mario, ça va bien? Hein? Le 3 novembre.
Et je connais ton père.
Oui. Et là,
ah oui?
Oui. Et le 3 novembre, j'ai déjà vu quelque part, je me souviens pas où, là. Des fois, ça peut ressembler. En complément de cette entrevue, merci d'être là. Il y a des activités, entre autres, justement, on parle du 23 octobre, donc dans deux semaines. Puis en même temps aussi, l'émission va couvrir cet événement-là ici, là, comme tel. Ça va plus déplacer tout le stock, mais... je te demanderai pas de m'installer ça là, avec Maria et Norman non plus, ouais. Le système. Mais il se passe quelque chose, puis je pense que c'est important que cet événement-là, il y ait beaucoup de monde.
Oui. Bien, entre autres, tous ceux qui veulent qu'on retrouve notre service de soutien et de maintien dans les lieux, ça veut dire que empêcher les propriétaires de faire ce qu'ils veulent,
oui,
et parfois de nous mettre dans la rue. Je pense que... Pour pouvoir vivre, on parlait de Manassan et de leur bataille, ben, il faut aussi des sous.
Oui.
Les bénévoles, c'est important, mais ça c'est limite pour organiser un système de défense, des gens qui peuvent aider des personnes.
Exactement.
J'ai vu dernièrement quelqu'un qui s'est fait couper l'électricité parce que son propriétaire avait fait faillite. Donc, les nouveaux, les gestionnaires voulaient économiser. Ils voulaient son loyer, mais ils ne voulaient pas lui fournir les services.
Ben non, voyons. Ouais. Hein?
Mais la personne s'est retrouvée à l'hôpital.
Ben, j'en doute pas.
Ben, en crise de panique. Ben, ces choses-là nous disent que le service, on en a besoin. Oui. Ça fait que le 23, il faut rappeler ces choses élémentaires-là aux citoyens qui nous écoutent ou nous regardent. Et aussi, ça commence avec une manifestation qui va faire la Wellington Nord. Donc, qui va passer ici en avant.
Oui, qui va partir du coin, OK.
Qui va se rendre jusqu'au Palais de justice, qui est le siège de la démocratie municipale.
Ça sera pas plutôt
L'hôtel de ville, l'ancien Palais de
justice. Oui, c'est ça, c'est parce que là... L'un des plus jeunes qui nous écoute, il dit « Qu'est-ce qu'il dit, là? »
Ouais, c'est ça.
Mais nous autres, on le sait, on l'a vu. On l'a vu le palais de justice.
Okay, à cet endroit-là.
À l'hôtel de ville.
Oui. C'est une manifestation animée. Ça va être festif. On va se rendre, justement, à l'hôtel de ville. Le parc a un nom c'est... Puis il va y avoir un dîner hot dog. Il va y avoir aussi l'organisation d'un référendum.
Ah oui, il y a 30 ans, on a connu ça. Hein? À peu près là-dessus, on se prépare à l'autre référendum.
Oui. Il va y avoir deux personnages. Mm. C'est des personnages... qui sont pas réels, donc c'est un peu de fiction, mais ils sont très proches d'une certaine réalité. Vous allez voir, il y a le camp du oui, qui est pour qu'on reçoive renouvelle notre subvention, qui est 20% de logement social à Sherbrooke.
Quelle est la pétition, d'ailleurs, qui est en circulation?
Quel est
le contenu de la pétition?
Et qui demande aussi que, dorénavant, que les groupes communautaires qui ont des choses à dire puis à interpeller notre gouvernement ou notre administration de proximité puissent rencontrer relativement facilement la mairie et les conseillers, que la porte de nos élus nous soit toujours ouverte.
Exactement.
Fait que je pense que c'est une chose importante, intéressante. Ça va être une belle journée. Si par malheur, il tombait des clous, ce serait remis au 30 du mois.
Donc, le jeudi suivant.
C'est une invitation à tout le monde. À un moment donné, si on veut quelque chose d'important dans notre vie, ben il faut y mettre l'épaule à la roue.
Exactement. Il y a une autre activité qui s'en vient un petit peu avant aussi, qui est un autre moment important. D'ailleurs, on l'avait en CA, on l'a préparé. Lundi, c'est l'Assemblée générale, je pense aussi, qui a une importance énorme, que les gens aussi peuvent participer aussi.
Oui. On invite particulièrement les membres, mais on invite aussi à des gens qui voudraient devenir membres. C'est une question de conviction. La carte de membre coûte 3 $, mais si vous ne l'aviez pas, c'est une contribution volontaire. L'association des locataires n'a jamais l'intention de vous priver d'une pinte de lait ou d'un pain.
C'est ça.
Pour se nourrir. Et si vos convictions sont du côté, ça a lieu le...
Dimanche.
Dimanche oui. 19 à Sercovie. La salle en bas, Sercovie, on rentre par l'arrière.
Ouais.
Et... tous les gens qui sont pour le droit au logement sont cordialement invités à venir participer et à devenir membre.
À compter de 9h30, le repas est inclus. C'est pour ça aussi que les gens peuvent s'inscrivent.
Nous, on ne peut pas vous garantir que vous allez devenir millionnaire.
Non, mais, OK, 4 millions, c'est pas, on n'aura pas là.
Mais on peut vous garantir que si on est nombreux à participer à cette lutte-là, que la dignité des locataires est, sera plus respectée et que le logement va finir par être un droit plutôt qu'un privilège.
Exactement. Donc, ça s'en vient. Alors, merci Mario de ton passage. Justement, j'ai trouvé, les cow-boys fréquents vont toujours demeurer, je pense, avec leurs chansons.
Dans nos cœurs.
Dans nos cœurs. Et puis, la manifestation, ben, justement, ça inaugure bien. Il y en avait une mardi aussi, une marche pour les victimes de la guerre partout. Parce qu'on dit juste depuis 2 ans, c'est pas juste depuis 2 ans, ça fait 77 ans que ça dure, cette guerre-là.
Oui, peut-être un mot. On rit un peu des travers des gens qui sont pour gagner, ils vont faire la révolution, il va falloir qu'il y ait des jours ensoleillés. Mais je pense que nous, on a travaillé toujours pour le sérieux de nos revendications, le sérieux de nos mobilisations. On veut que ça soit la base, les gens qui vivent des problématiques, qui puissent défendre leurs droits.
Bien, merci. On va justement offrir cette chanson-là, les Cow-boys fringants, la manifestation. Il va y avoir plein de monde, bien sûr. Le 23 octobre prochain, il va faire beau. C'est commandé déjà avec Environnement Canada. Et puis, merci Mario de ton passage. Et aussi, bien sûr, solidarité avec, on va attendre avec impatience aussi la décision demain du tribunal. Puis je pense que c'est vraiment un beau combat. Puis justement, une prise en charge des locataires comme tel, c'est vraiment super.
Oui.
La manifestation!
Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux filles poilues en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du Vieux-Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la mince foule grelottait en ce froid jeudi de printemps, et aux étudiants qui foxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot, et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Et on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, on rêvait de révolution. C'est je dans le cul avec une poignée de compas sous la pluie froide du mois de mars. Sur boulevard René Lévesque, ils ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système, et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes sous de ninja cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché 2-3 pétards, les bœufs sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas payé tard. À la manifestation, on révèle de révolution. Se jette dans le cul avec une poignée de compas. La pluie froide du mois de mars. Mais là, ça a dégénéré, car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beau fusil ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac, pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice. On entendait les chiens japper à travers le puits des sirènes, ben étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease en version Hillbilly. Quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et ce fut terminé, pas qu'on est rentré déçu, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation,
Et oui, donc, manifestation, oui, donc, dans le temps qui reste, ben, je vais regarder un petit peu la liste des candidats et candidates. De toute façon, vous pouvez faire comme moi, vous allez, je pense que sur les différentes pages, la tribune Radio-Canada, il y a le nom de tous les candidats et candidates qui sont justement en liste dans les différents districts aussi. Et plusieurs aussi ont leur page Facebook. Fait que donc, je voulais regarder quand même deux textes qui sont justement qui parlent d'élections municipales. Un provient, bien sûr, quand je le vois, Michael Bergeron de la Tribune. Je dis toujours, vous êtes mon préf, parce que c'est toujours des textes d'appoint comme tel. Et justement, il a produit hier ou avant-hier un texte qui s'appelle justement. Qui porte sur les élections municipales et qui donne quand même une certaine, quand même, et pas ça, des illusions politiques que le titre de son, et qui montre certaines réalités, malheureusement, face aux élections municipales. Et voici ce que, si vous ne l'avez pas lu, je vous en fais la lecture comme telle, puis les commentaires aussi. Aux dernières élections municipales, la majorité de la population n'est pas allée voter. À peine 39 %. Donc, il faut retenir ce chiffre-là, là, 39 %. C'est-à-dire, quand vous êtes élu, il y a 39 % des gens qui ont voté, mais vous n'avez pas 39 % qui vous ont élu. Là. Il y a un pourcentage de 39 %. Là. OK, ça sort du texte. Ça. Je reviens à son texte. Même que les gens y vont de moins en moins. On dit souvent que le municipal est le palier, le gouvernement le plus proche. D'ailleurs, Mario le soulignait tout à l'heure aussi, le plus proche des gens. Mais parfois, on dirait que c'est celui que les gens comprennent le moins. Alors, quand Michael Bergeron écrit à quelque part, c'est qu'il s'est basé aussi sur des faits, sur des rapports. Ce n'est pas vraiment élevé, 39 %, je le répète, la majorité n'a pas voté. Sur un groupe de 3 personnes, il y a de bonnes chances qu'une seule ait exercé son droit de vote. Si toute participation ne suit pas la même courbe descendante à Sherbrooke, on ne peut pas dire qu'il est enviable. Entre 2013 et 2021, le taux est passé de 42 à 44 % pour revenir à 42,5 %. L'enjeu n'existe pas seulement au municipal, c'est vrai, mais c'est au municipal que le taux est le plus bas, vraiment plus bas. Au provincial, le taux de participation en 2022 était de 66 %. Et en avril dernier, lors de l'élection, bien sûr, de Mark Carney, c'était 69 %. Donc, cette situation, nous dit Michael Bergeron, inquiète Élections Québec et anime les méninges de plusieurs chercheurs et chercheuses. Pourquoi les gens ne vont pas voter? C'est quoi le problème, hein? Les facteurs sont multiples. Il y a le classique manque de temps. Là-dessus, il y a du travail de fait. Le vote par anticipation, d'ailleurs, qui est de plus en plus populaire et plus accessible. On l'a vu dans la dernière élection, justement, là, comme tel, beaucoup de gens ont été votés, justement, par anticipation. Les heures de vote permettent à plusieurs types d'horaires d'aller voter. Ce n'est pas ça le plus grand obstacle. La littérature scientifique dresse un assez bon portrait de qui va voter et qui s'abstient. Les jeunes votent moins. C'est ça, c'est pour moi qui l'invente, là. C'est le rapport qui est sorti d'experts et d'expertes. Puis je me dis, donc, il y a toute une éducation à faire. Hein. Les personnes qui sont allées à l'université votent plus. Plus leur revenu est élevé, plus le taux de participation est élevé. Et les femmes votent moins que les hommes. Comme vous dites, ce que Michael Bergeron met là-dedans, ce que je vous lis, là, c'est le texte de Michael, et c'est basé sur des données, sur des études sérieuses. Hein. Parce que c'est pas le gars qui va aller sur ce qui se passe là, sur une page Facebook de quelqu'un. Là. Mais là, on n'est plus dans le portrait que dans les explications. Une étude de l'Université Laval a tenté de voir si l'emplacement des bureaux de vote avait un impact. La réponse semble être oui, du moins en milieu densément peuplé. En zone rurale, que le bureau de vote soit à 2-5 kilomètres, ça influence peu le taux de participation. Si je sors du texte en sachant que quand on est milieu rural, là, de toute façon, il faut bien sortir si on veut avoir une peine de lait ou ben non du pain, ou ben non d'aller faire son épicerie. Hein. Une des hypothèses, c'est que dans ces régions, peu importe la distance, le déplacement risque de se faire en voiture. Il y a sûrement un stationnement au bureau de vote, ça reste généralement assez simple et facile. Le bureau est-il situé dans une école, un commerce vacant, une église? Est-ce un endroit connu? Est-elle accessible par transport en commun? A-t-il du stationnement? Toutes ces questions peuvent influencer le taux de participation. C'est dans les archives de Tribune par Jessica Garneau. En milieu urbain, plus la distance à parcourir est grande, plus le taux de participation diminue. Une distance de 500 mètres ou 2 km peut faire une énorme différence. Si la personne doit prendre deux autobus pour s'y rendre, ou marcher les 2 km entre chez elle et le bureau de vote, ou qu'il n'y a pas de stationnement sur place, les efforts nécessaires pour aller voter peuvent démotiver. C'est loin d'être anodin. Aux États-Unis, certains bureaux de vote ont été jugés discriminatoires parce que le remplacement favorisait les quartiers blancs aux quartiers noirs ou latinos. Au Québec, on peut se demander si les quartiers défavorisés ont un accès aussi facile que les quartiers plus riches. Un autre site qui donne « Se sentir concerné ». Après les élections municipales de 2017, Élections Québec et l'Université Laval ont tenté de comprendre pourquoi les gens n'allaient pas voter. Deux éléments ont retenu mon attention. Plusieurs personnes croient que leur vote ne changera rien. Et d'autres ne comprennent pas en quoi ça les concerne. Puis hier, je sors du texte. Hein. Hier, je parlais avec une jeune personne, en bas de 30 ans, qui disait, moi, je me sens pas concerné. Je comprends rien là-dedans. Là. Il y en a d'autres qui sont dans son cas. Puis, voyez-vous, là, c'est bien confirmé par le texte de Michael Bergeron et les études sur lesquelles il se base. Les deux ne sont pas nécessairement opposés. Une personne qui ne comprend pas les enjeux ou qui ne se reconnaît pas dans les candidats peut se demander à quoi ça sert de voter. Il y a même un risque de cercle vicieux, nous dit Michael Bergeron dans son texte. Les campagnes électorales les plus clientélistes vont particulièrement cibler les citoyens et citoyennes qui ont plus de 40 ans, qui ont un revenu moyen et élevé et qui vivent en périphérie. Donc, les jeunes et les moins favorisés ne se sentent pas concernés et ne vont pas voter. Donc, les partis les courtisent moins. On parle souvent de vote par Internet, comme ça pouvait renverser la tendance. Élections Québec reconnaît que ça peut faciliter l'exercice, mais pour les gens qui ont déjà envie de voter. Ça ne change rien pour celles et ceux qui ne se sentent pas interpellés, qui ne vont pas voter. Le clientélisme fait partie du problème, mais ce n'est pas le seul. Un conseil municipal, ça peut être aride. Oui, beaucoup de protocoles, de procédures, de détails techniques. Ce n'est pas comme la période de questions à l'Assemblée nationale. Il y aurait peut-être quelque chose à réfléchir pour rendre ça plus accessible, plus digeste. Les repères politiques sont aussi plus difficiles en politique municipale, au fédéral ou au provincial, même sans connaître les détails des plateformes ou des promesses. On sait que tel parti est souverainiste ou fédéraliste, progressiste ou conservateur. Pas besoin de tout suivre pour se situer dans les options. Par contre, au municipal, c'est loin d'être aussi marqué, même lorsqu'il y a des partis politiques. Ce qui est le cas à Sherbrooke, là, il y en a deux présentement. Ça demande plus d'énergie pour comprendre les propositions. Repérer celles qui nous parlent. Les candidats s'affichent rarement de gauche ou de droite. La rigueur budgétaire n'appartient à aucun courant idéologique, c'est juste que tout le monde ne la définit pas de la même manière. Un autre titre, politiciens, médias et éducation. La responsabilité est donc multiple. Les politiciennes et politiciens devraient faire plus d'efforts pour expliquer leur politique lorsqu'ils sont élus, mais aussi en campagne électorale. Quel impact sur la vie des gens? Comment ça fonctionne? Pourquoi le faire de telle manière plutôt qu'une autre? Quelles sont leurs valeurs? Il faudrait aussi abandonner le clientélisme qui nourrit le cynisme. Un commentaire qui revient souvent, c'est que les gens ont l'impression d'avoir le choix entre brun beige, beige beige ou blanc beige. S'il y avait un peu plus de vert, de bleu, de rouge, de jaune, ça aiderait peut-être à voir ce qui différencie vraiment les candidates et candidats. Les médias doivent aussi aller au-delà des slogans et des attaques contre les adversaires politiques. Mieux vulgariser les décisions des conseils municipaux, davantage présenter les plateformes électorales, ne pas se contenter des annonces politiques. Ceci dit, c'est sûr que ça aiderait si la crise des médias arrêterait de massacrer les salles de nouvelles. Et enfin, le système d'éducation devrait offrir un meilleur enseignement sur la vie démocratique. Je sors du texte pour justement appuyer ça, parce que souvent les jeunes de politique, comme les jeunes qui sont engagés, qui viennent ici à l'émission, et puis d'autres, il n'y a aucun problème, il y en a d'autres, c'est comme si on ne savait pas ce qu'on disait. Les rouages et les mécanismes, le rôle des élus, comment participer comme citoyen, se présenter en politique n'est pas la seule option. Les gens préfèrent s'abstenir de voter qu'aller voter n'importe quoi ou n'importe quelque chose qu'ils ne comprennent pas. et c'est normal, voter pour le moins pire, ce n'est pas motivant. Il faut redonner du sens au vote. La politique devrait inspirer, pas faire rouler les yeux. Donc, ce texte-là de Michaël Bergeron, comme tel, est assez, comme tel, poignant, puis assez clair, justement, puis qu'on se désole d'avoir, justement, cette participation. Fait qu'on va espérer que l'élection 2025 municipale, comme telle. Le temps avance, puis, mais si jamais vous mettez la main sur le journal Entrée libre, papier, il y a aussi, il y a une réflexion, justement, de Christine Labrie, qui questionne, justement, il y a beaucoup de municipalités où il n'y a pas de course à la mairie, puis même il y a une municipalité qui n'y a pas de course pas du tout, ni à mairie, ni ailleurs. Fait que, à lire aussi, parce que je voudrais quand même revenir sur quelques activités qui s'en viennent. D'ailleurs, la marche mondiale des femmes, donc on parlait tout à l'heure, nous, l'Assemblée générale de l'Association locataire de 19, la veille, le 18, et actuellement, justement, si vous allez sur leur page, il y a, le justement, réouverture des inscriptions, il y a plus d'autobus comme tel, c'est un succès comme tel. On parlera sûrement la semaine prochaine, puisqu'on sera le 16, donc la veille du 17, vous allez dire, allez, on le sait bien. Il y a la nuit des sans-abri, qui ont sûrement qu'on aura quelque chose là-dessus, et j'aurai aussi, dans la première partie, justement, nos amis du CHIP, qui sont des personnes fort engagées et, justement, de gauche et enflammées dans leur engagement. Et donc, la nuit des sans-abri qui se déroule le 17 octobre, ça va se passer d'ailleurs au carré, justement, c'est ça que je pense que Mario cherchait là, le carré Strathcona. Il y a plusieurs activités à venir aussi pour Solidarité Sherbrooke-Palestine. Il y a aussi sur leur page Facebook, on peut retrouver plein de choses comme telles. Alors donc, il y a plein d'activités qui s'en viennent comme telles dans nos choses, nos activités. Et pas oublier, bien sûr, l'Assemblée générale de l'Association, l'activité du 23, donc les émissions comme je vous dis présentement, et il y aura aussi, bien sûr, le lendemain de l'élection, le 3 novembre, l'Association locataire va faire un point de presse, justement, une conférence de presse pour réagir, puis ça va être une grosse semaine. Élection le 2 novembre, 3 novembre, puis le 4 novembre, ça va être le budget fédéral qui va être présenté, donc là aussi, il y aura des réactions. Fait que, donc, les prochaines émissions, comme toujours, et c'est bien maintenant que ce soit les semaines, parce que vous voyez, il y a plein de matériel. Alors, donc, je vous laisse à la programmation, justement, régulière de CFLX. Je regarde comme tel. Non, c'est ça, il y avait l'émission là, sur la science, je pense que là, qui ne revient pas comme tel, là, mais qui a été pendant plusieurs semaines, qui nous a suivis. Alors, merci de votre écoute. Merci à Mario. Merci, bien sûr, de l'Association Gataire. Merci à tous ces textes très inspirants. Aussi Michaël Bergeron, comme vous dites, lisez celui aussi de Christine Labrie dans le journal Entrée libre et suivez bien sûr la campagne électorale parce que le vote, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas ce droit-là. Et nous, on a le droit de voter. Alors, de l'exercer, c'est comme rendre hommage aux gens qui se sont battus pour, et en particulier le droit des femmes, au Québec, ou la dernière province, ou au provincial, puisqu'au fédéral, c'est depuis 1919, mais les années 40. Donc, de rendre hommage à ceux et celles qui se battent pour la démocratie, ben, c'est simplement d'aller exercer son droit de vote sans problème, comme tel. Alors, je vous laisse là-dessus, à la programmation de CFLX, et on se retrouve, bien sûr, jeudi, midi prochain, pour une autre émission, Logement, un droit.
Il est midi.
58 minutes.
Cette année encore, vibrez au rythme du Phoenix de Sherbrooke. Des matchs captivants et une ambiance électrisante. Vivez l'intensité du hockey junior à son meilleur avec le Phoenix face aux autres équipes de la Ligue de hockey junior Maritime-Québec.
Ce vendredi, le Phoenix de Sherbrooke rend visite aux Remparts à Québec. Le match est prévu à 19h.
Le Phoenix, synonyme de détermination et de fierté. Soyez de la partie. Écoutez tous les matchs à Sing FM 96.7 et CFLX 95.5. Diffuseur officiel du Phoenix de Sherbrooke.
Entrez dans l'univers MaTV en participant à votre télévision communautaire. Vous pouvez proposer un projet d'émission reflétant les intérêts de votre région ou devenir bénévole devant et derrière la caméra. Si l'animation, la recherche et les tournages télévisuels vous intéressent, écrivez-nous à infomatv@commercialvideotron.com et visitez le